connard à leur uniforme.
Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. Comme le prédateur, je ne sors que la nuit.
Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je suis avec la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Préparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ethnique. Antipathique, sadique, allergique, conflictuelle. Même dans la foule, je porte la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours. Lancer le cocktail molotov, sans faire de propagande. Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes. Le message est passé.
En gros, de ce qu'on peut aussi appeler les bavures, et lui en fait, son truc c'est de dire que ces bavures c'en est pas, que cette violence policière elle est organisée, elle est gérée, elle est influencée par plein de personnes, quoi que ce soit au niveau de l'État, des industriels, et que en fait c'est pas juste des méchants flics qui pètent les plombs une fois et qui tirent sur quelqu'un et qui le tue, c'est pas du tout un hasard et que c'est en fait. Une violence qui est rationalisée, quoi. Qu'il n'y a pas de police non violente, mais que c'est pas non plus un bloc, quoi, que la police n'a pas toujours été la même, quoi, et qu'elle est en train de se restructurer, que la police elle a une histoire. Et lui, il parle plus particulièrement de la police, ce qu'il appelle de la ségrégation néocoloniale, quoi, de la police qui est surtout appliquée aux immigrés et aux fils d'immigrés, quoi, aux non-blancs pauvres. Et il voit en fait d'où vient cette police et pourquoi est-ce qu'elle tue, elle tue autant et à quoi est-ce qu'elle sert, quoi, à qui elle sert. Donc en fait, ouais, l'auteur là, Mathieu Ribouze, donc c'est un mec qui est assez jeune, qui a une trentaine d'années, qui lui est passé par des études de sociologie et donc utilise toutes les méthodes de la sociologie, quoi, pour étudier les violences policières et tout le système qu'il y a derrière. Et mais c'est quand même un mec qui justement a tendance à vachement critiquer. La sociologie académique universitaire, parce qu'il sait aussi que cette sociologie là, quoi, académique, elle sert en très très grande partie au contrôle, quoi. C'est-à-dire que à la fois des fois déjà pour diffuser des idées fausses quoi. Ouais, bah par exemple, c'est que la plupart des études qui sont faites sur les violences policières, apparemment, elles sont centrées sur toutes les initiatives de la police, enfin, leur permettant de réduire leur propre violence. Et lui, il explique bien que toutes ces études, elles passent toujours à côté de toutes les brimades quotidiennes, les humiliations, les techniques d'étranglement, les fouilles au corps, les contrôles d'identité, les perquisitions, tous ces trucs qui font la vie quotidienne des gens. Tout ce qu'on disait, la police de proximité, par exemple, qui a été inventée par la gauche, et quand la droite dit « ouais, c'est une police qui va jouer au football avec les gamins », je veux dire, c'est juste du délire, quoi. C'est une police d'occupation qui est, elle aussi, vraiment héritée d'une... De stratégie de contre-insurrection qui était utilisée dans le colonie, quoi. Le modèle, c'est un peu normalement que tu as une police d'occupation qui quadrille le terrain et qui empêche les gens de se mobiliser, qui coupe, enfin, qui essaye de paralyser la vie sociale. Donc, cette fameuse police de proximité, quoi, qui est là pour occuper le terrain. Et ensuite, tu as des brigades de choc, quoi. Toutes les BAC, RAID, GGN, BSN, RAID, tous ces trucs-là. Et les études académiques, elles sont complètement... qu'elles servent beaucoup plus l'État et ces mêmes personnes que lui, il essaye malgré tout d'en faire une arme, quoi, pour comprendre et pour pouvoir mieux répondre à toutes ces agressions qui leur sont faites, quoi. Lui, il explique vraiment dans le bouquin que cette violence policière, en fait, ça peut paraître bizarre au départ, mais qu'elle est liée aussi à des intérêts financiers. Il explique aussi que c'est en gros qu'au début des années 80 que les médias vont être complètement intégrés à la gestion de ces zones-là, quoi. Il explique il y avait déjà des émeutes et tout ça, enfin des trucs qui commençaient à faire du bruit dans les années 70, mais à partir des années 80, en fait, ils se sont saisis ils ont pris comme prétexte, en fait, l'histoire du rodéo, des rodéos de voitures aux Minguettes. Je crois que c'est les Minguettes, si je me trompe pas, c'est à Lyon. Et des grèves de travailleurs arabes pour en fait fabriquer un truc, c'est le problème d'intégration des immigrés. En fait, ça leur servait à criminaliser, quoi, les révoltes populaires en disant mais voilà, ces gens-là, en fait, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à intégrer la culture française. Voilà, donc ça permet aussi, voilà, ça leur permettait de masquer tous les. Sinon, je l'ai déjà dit, quoi, l'exploitation. Au niveau du boulot, au niveau des conditions de logement, au niveau de l'école, au niveau de tous ces trucs-là, quoi, contre lesquels eux, ils manifestaient en réalité.
Laborieuse classe dangereuse, on se recède, on refuse nos destinées. Classe laborieuse, classe dangereuse, une grosse bagarre pour pas être sous-estimé. Classe laborieuse, classe dangereuse, on fout le bazar, chez nous ça reste inné. Classe laborieuse, classe dangereuse, on prend les armes comme moyen de s'exprimer.
Dans les années 30, que le patronat français se réorganise à la fois contre la menace communiste qui émerge en 1917 en Russie et aussi qui fait face à une des premières grosses crises de suraccumulation du capitalisme en 1929, quoi. La bourse s'effondre, tout ça, le patronat se réorganise et décide d'avoir des nouvelles sources de profit en investissant à mort dans le marché militaire. Et de fil en aiguille, en fait, puisque là, c'est pas à proprement parler le marché de l'armement, quoi, qui est utilisé par la police, en tout cas, enfin, c'est un dérivé, mais pas tout à fait, quoi. C'est vraiment apparemment dans les années 60 que ce qu'il appelle le marché de la coercition, tout le marché du matériel, des techniques de police, quoi, c'est à partir du moment là où ça explose. Et par exemple, il donne un exemple, c'est vraiment dans l'après 68, dans les rapports, quoi, qui sont faits, dans les retours d'expérience qui sont faits, quoi, de la gestion, des émeutes et des manifestations, on dit voilà, il y a eu un gros problème de mobilité dans la police. de mobilité quoi, à ce moment-là. Et ça va en fait, à partir de ces rapports-là, ça va ouvrir tout un marché quoi, pour justement, par exemple, les véhicules policiers. Quoi. Les canons à eau, les transports de troupes, des boucliers amovibles sur les... sur les voilà sur les camions les unités motocyclistes quoi qui sont enfin qui sont connus pour avoir tué Malik Houssekine et tout ça enfin qui ont disparu après voilà justement pour générer ce marché là il faut créer aussi des menaces intérieures quoi la figure d'ennemis intérieurs. Donc ça c'est créé par les rapports quoi. Il y a des gens dans un de ses autres bouquins qui s'appelle Les marchands de peur. Il analyse vachement ça avec le marché de la vidéosurveillance, quoi, avec des mecs comme Alain Bauer, quoi, que vous avez forcément vu à la télé, qui sont à la fois experts, qui passent sur tous les plateaux télé pour dire « Oulala, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de délinquance, il faut de plus en plus de contrôle, de vidéosurveillance. » Et bizarrement, ce même Alain Bauer qui est expert, qui fait des rapports ministériels et tout ça, eh ben, il a une entreprise qui s'appelle AB Associates, autant que je me rappelle, quoi, et qui vend, quoi. Donc, il crée à la fois le besoin et ensuite, il vend tout son petit business et il s'en met plein les fouilles, quoi. Donc, ce système-là, en fait, il marche pour la vidéosurveillance, mais évidemment, c'est pas les premiers qui ont inventé ça, quoi. Il marche pour tout le matériel, pour l'exportation des techniques, la gestion du personnel policier, tout ça, quoi. Et évidemment, bon là c'est juste des exemples, un petit aparté, mais il y a plein de lois, par exemple dans les années 80, qui ont ouvert ce marché-là. Quoi. Par exemple, il y a une loi du 12 juillet 83 qui autorise le port d'armes à feu en dehors de la police nationale pour les convoyeurs de fonds. Voilà, ça c'est qu'un petit exemple, quoi, mais c'est comme ça que tu ouvres des marchés, que tu permets aux industriels de s'en mettre plein les fouilles. À partir de 86, il y a tout un processus de dénationalisation des industries publiques de l'armement. Et par exemple, entre 81 et 95, le nombre d'entreprises de sécurité il va être multiplié par 4. Donc il y a vraiment des mecs qui s'en mettent plein les fouilles, quoi. Et évidemment, quand on dit il y a des mecs qui s'en mettent plein les fouilles, c'est les industriels, mais faut bien se dire que quand tu ouvres des marchés comme ça, quand tu es politique, que tu diriges et que tu permets l'ouverture de ce type de marché, eh ben forcément, t'es rétribué de différentes manières. Et la première, c'est l'argent, quoi. Il prend l'exemple du flashball, donc ce qu'il appelle les lanceurs de balles non perforantes. Et en fait, il regarde comment ça s'est développé. Donc, par exemple, il voit qu'au départ, ça a été utilisé quoi, dans la bande de Gaza quoi, par l'armée israélienne, ou je crois que c'est en Ulster, par l'armée anglaise. Et donc, c'est du matériel qui est directement militaire et qui était utilisé en gros pour réduire le risque d'insurrection, quoi. Apparemment, l'utilisation de l'arme lourde contre les populations, ça provoque plus d'émeutes et de bordel à gérer pour eux. En France, bon, évidemment, c'est une entreprise là, qui s'appelle Vernet Caron, qui est spécialisée dans les fusils de chasse, quoi. C'est le plus ancien et le premier producteur de fusils de chasse en France. Donc c'est eux qui développent ça. Au départ, c'est pour, ils disaient, pour pouvoir stopper du gibier en pleine course. Quoi. Donc c'est utilisé pour ça au départ. Donc ils donnent ça d'abord en 95 au RAID et au GIGN. Et puis ensuite à la BAC et aux polices de proximité à partir de 98, quoi, sur un modèle plus compact. Quoi. Et évidemment, c'est toujours des gros marchés quoi, qui se comptent en millions d'euros. Ouais, pareil, ça c'est des détails qui n'en sont pas. Bon, et donc évidemment, l'utilisation de tous ces flashballs, ça leur permet en fait de rendre les violences plus. En tout cas, de leur point de vue, plus acceptables. Et il y a de plus en plus de gens qui sont blessés, quoi. Mâchoires fracturées, éborgnées. Il n'y a pas que les flashballs quoi, qui blessent, mais ça en partie. Et évidemment, à chaque fois, c'est impunité policière, quoi. C'est très très rare les gens qui sont, enfin les flics qui sont condamnés pour ce genre de choses-là. L'entreprise même qui produit les flashballs explique qu'il y a une précision qui est de l'ordre de 60 cm. Donc en même temps, tu as le ministère de l'Intérieur qui, quand il y a une révolte ou quoi par rapport à l'utilisation des flashballs, lance des directives et médiatiquement explique qu'il fait passer le message aux troupes de ne surtout pas tirer dans la tête et dans le triangle génital. Mais en même temps, celui qui construit les flashballs dit que c'est pas précis à mieux que 60 cm. Donc en gros, ces mecs-là, ça veut juste dire qu'ils sont couverts administrativement. Ils peuvent tirer dans la tête puisqu'ils ont visé le nombril, mais 60 cm plus haut, il y avait la tête. Et donc celui qui construit les flashballs peut attester et tout le monde repart avec un non-lieu. Donc voilà. Après, il y a toute l'histoire des tasers, des drones. C'est un marché monstrueux, quoi, notamment avec un truc qui développe un peu sur l'immigration clandestine. Et là, tout ce qui est technique de fichage, de contrôle, de surveillance des frontières, tout ce qui est drones, navires, hélicos, infrastructures électroniques, traçage biométrique, tout ça, c'est au niveau de l'Europe, c'est des dizaines de millions d'euros, quoi. C'est juste délirant, quoi. La France est reconnue pour son excellence entre guillemets, évidemment, dans le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que généralement, il y a assez peu de morts. Voilà, même s'il y a plein de blessés, il y a assez peu de morts. Et que dès qu'un État veut se présenter comme démocratique, c'est quand même plutôt intéressant, quoi. On a d'abord exporté les techniques de contre-insurrection un peu partout dans le monde. Notamment en Amérique du Sud, pour savoir comment torturer, comment tuer les gens, comment faire des rafles, faire disparaître les opposants.
Toutes ces techniques étaient inspirées de la guerre d'Algérie.
Complètement, ouais, tout à fait. Et là, maintenant, en fait, on exporte du maintien de l'ordre, quoi. Donc c'est une gentille petite tradition française, quoi, qui permet aux industriels de s'en mettre plein les fouilles.
Et de contrôler la main-d'œuvre.
Et évidemment, de contrôler la main-d'œuvre.
Pas de temps à perdre en parole inutile, voilà le deal, et du coup les forces de l'ordre, un peu moins de désordre. jour, Nicopolis.